Écrire, lire. Écrire pour être lu, lire pour découvrir le monde, les autres, s'évader, revenir à soi, trouver la sensation et se dire c'est ça, exactement ça, le mot, la phrase juste qui fait voir ou entendre, car le mot, la langue, résonne, éclaire, précise, relie, pense.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Pendant 4 jours, Tunis va devenir l'épicentre de la francophonie avec 2 événements successifs, le Congrès mondial des écrivains de langue française, précédé des états généraux du livre en langue française dans le monde. 2 événements où il va être question de l'usage et de l'invention de la langue, mais aussi de la circulation des livres entre le Nord et le Sud, entre le Sud et le Nord, hors des frontières strictement nationales. 2 événements placés sous la présidence, sous le parrainage de Leïla Slimani, autrice multi-récompensée, notamment par le prix Goncourt en 2016 et nommée depuis représentante personnelle du président de la République pour la francophonie. Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Vous êtes au téléphone avec nous car à l'étranger et c'est presque devenu une habitude depuis que vous avez endossé ce rôle d'ambassadrice de la francophonie. Est-ce que vous avez touché du doigt au cours de ces nombreux voyages ce qu'est la francophonie et le fait que le français soit une langue monde ?
Ah ben vous savez, moi je l'ai touché du doigt depuis ma plus tendre enfance. Je suis une enfant de la francophonie. J'ai grandi au Maroc, qui est un grand pays francophone dans lequel beaucoup de gens aiment énormément cette langue, la pratiquent quotidiennement. J'ai ensuite été journaliste pour le magazine Jeune Afrique, qui est le plus grand magazine panafricain en français et qui est aussi finalement un étendard de cette francophonie. Et c'est vrai qu'à l'époque, pendant mes reportages en Afrique, ce qui était merveilleux, c'est que j'étais marocaine, j'arrivais au Sénégal ou j'arrivais en Côte d'Ivoire ou en Tunisie et on parlait français, parce qu'on ne parle pas forcément la même langue, mais ce français était un moyen de créer du lien entre nous. Donc voilà, cette francophonie, j'ai toujours vécu avec elle. Parfois, je l'ai interrogée, parfois, je l'ai moins aimée, mais en tout cas, j'ai toujours vécu avec elle.
Mais là, depuis ce prix Goncourt, depuis ce rôle diplomatique que vous avez, ces voyages se sont accentués.
Oui, absolument. Oui, je passe beaucoup de temps dans les pays francophones et même dans d'autres pays, dans des pays francophiles, parce que dans beaucoup de pays, on est très, très demandé d'apprendre à parler français, de connaître mieux la littérature française. Des pays comme la Chine, des pays comme l'Argentine, comme le Mexique, sont des pays extrêmement francophiles où l'enseignement du français se développe à toute vitesse, où maintenant on préfère par exemple, ou parfois on favorise le français plutôt que l'anglais. Même aux États-Unis par exemple, là dernièrement on vient d'ouvrir les villas Albertine aux États-Unis et puis tout un système aussi de cours bilingues dans un certain nombre de lycées, notamment à New York. Donc il y a un appétit du français qui est très grand et que, effectivement, je touche du doigt dans mes nombreux voyages.
Alors, en français ou traduite, je crois que vous êtes traduite en 40 langues, vous semblez incarner la littérature française. Est-ce qu'une femme qui porte une double culture pourrait être le symbole de la littérature et de la culture française, Leïla Slimani ?
Bah écoutez, oui, je vois pas pourquoi elle ne pourrait pas. Je pense que oui. Après, je ne sais pas si je suis une incarnation de la France au sens hexagonal du terme, mais peut-être des lettres en français, enfin de la littérature en français, ce qui est encore différent. Aujourd'hui, vous savez, je pense que le public est peut-être encore plus ouvert que les institutions ou que les gouvernants. Ils ont bien conscience que ce qui compte, c'est le fait que vous soyez un écrivain de langue française. Au fond, est-ce que Alain Mabon Bancou, Louis-Philippe d'Alembert, moi-même, on incarne la France, je ne sais pas, mais on incarne une certaine langue française.
D'ailleurs, vous n'aimez pas, je crois, l'expression écrivain francophone. Vous préférez écrivain, écrivaine de langue française. C'est pour cette raison ?
Oui, je ne l'aime pas parce que pendant trop longtemps, quand on parlait d'écrivain francophone, d'une certaine façon, on désignait une espèce de littérature ghetto qui se situe à la périphérie, une littérature comme ça un peu exotique, à laquelle on réfutait aussi sa portée universelle. C'est-à-dire, ah ben ça, voilà, c'est une littérature francophone qui raconte un peu le Congo ou la Côte d'Ivoire. Mais on réfutait, voilà, sa possibilité de parler à tous. Or, écrivain de langue langue française me paraît plus juste, puisque je pense que les écrivains français sont des écrivains francophones comme les autres. Donc voilà, nous sommes tous des écrivains de langue française, c'est notre langue qui nous définit.
Et vous allez en parler lors de ce congrès à Tunis, congrès mondial des écrivains. Alors, je le disais, cet événement sera précédé des états généraux du livre, et avec nous dans notre studio, Sylvie Marsay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire générale pour ce rendez-vous donc des états généraux, porté par l'Institut français, et il s'agit, si je ne me trompe pas, de faire le point sur la circulation des livres dans l'espace francophone, ce qui bizarrement n'a jamais été fait.
Oui, je crois qu'effectivement c'est un très beau projet et qui va se dérouler pour la première fois. C'est de s'interroger sur les conditions d'accès aux livres en langue française partout dans le monde, sa circulation. Donc Leïla Slimani en parlait, elle est traduite. Alors par la traduction, effectivement, les livres circulent beaucoup dans le monde. Et la question, c'est sans avoir besoin d'être traduit, est-ce que ces livres circulent déjà dans l'espace francophone? Et la réponse est qu'aujourd'hui, cette circulation est très difficile. Alors bien sûr, des très grands auteurs arrivent à être lus dans différents pays. Mais les constats qui ont été faits et qui finalement fondent un peu ces états généraux, c'est que parfois même certains très grands auteurs sont très connus internationalement et ne sont pas connus et pas lus dans leur propre pays. Tout simplement parce que l'industrie du livre y est peu présente, parce que les livres sont trop chers et donc leur accès par une grande partie de la population ne peut pas se faire.
Alors on va parler de tout cela, mais juste un ou deux chiffres qui me semblent assez terribles quant à l'importance de ce marché du livre francophone. C'est 5 milliards d'euros.
Oui.
Et c'est 85% de ces revenus qui proviennent de la France. Donc ça dit bien comment le livre du Sud, la littérature du Sud, est la portion congrue de ce marché. 5% simplement sur l'ensemble de l'Afrique.
Alors, si on rajoute les pays du Nord, que sont le Québec, la Suisse, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Belgique, etc., on arrive à 95% de la valeur produite par les livres, qui donc est captée, entre guillemets, par les pays du Nord. Il reste donc, effectivement, 5% simplement pour le Sud. Et le pays le plus important dans son secteur éditorial, c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui va peser moins de 1% de ce marché. Donc oui, c'est un des constats très forts aussi qu'on a pu faire dans le cadre de la préparation de ces états généraux, c'est de faire ces mesures. Et c'est pas simple, parce que les chiffres, il y en a très peu. Et donc, aller chercher des données, c'est déjà en soi très compliqué, et c'est déjà une performance dans le cadre de la préparation de ces états généraux.
Mais il faut arrêter ce déséquilibre, il faut renverser la vapeur, si j'ose dire, c'est l'objectif des états généraux?
Alors, renverser, je pense qu'il faudra beaucoup d'années, mais en tout cas, l'objectif, c'est réellement de permettre de favoriser un marché plus équilibré, un marché où, si on compare aujourd'hui aux évolutions démographiques, très clairement, l'enjeu du développement du livre en langue française, c'est dans les pays du Sud. Et donc, comment faire en sorte pour que ces pays puissent mettre en place, puissent développer, puissent produire de la création qui fasse que, en effet, ce marché se rééquilibre.
Leïla Slimani, Sylvie Marsay, on va affiner ensemble, préciser, trouver le mot juste, damner peut-être le chiffre implacable. Mais auparavant, on va s'incliner devant la Mésopotamie princesse de Victor, avec un E, c'est une jeune femme, Victor Yaga.
Je suis dans la bande à Bader, Big Badaboum. Tu vas saigner si t'espères un big rendez-vous. Je suis pas la fille du calvaire, mais you know I'm no good. Il manque toujours un centime pour faire un euro. Tous voulaient me ranger dans une paire de shoes. Je les mène en bateau dans un océan de flouze. Yellow marécage, l'univers est ma cage. B612, découpe les Scooby-Doo. Gigantesque, mes sinus unisexes, je suis le phénix.
Mésopotamie princesse. Sur la carte gigantesque, mes sinus unisexes, je le fais.
Victor Yaga sur RFI dans Deux Vives Voix entre Paris et Tunis, car nous nous retrouverons demain dans la capitale tunisienne, du moins Sylvie Marsay, commissaire générale des états généraux du livre en langue française dans le monde. Événement qui va regrouper quelques 150 professionnels en présentiel et autant en distanciel. Et Leïla Slimani, à qui l'on doit ce congrès mondial des écrivains en langue française. Là encore, des restrictions liées à la pandémie compliquent les choses, mais Leïla Slimani, le congrès a bien lieu. Il aura lieu avec plusieurs dizaines d'écrivains.
Oui, absolument. Oui. Malheureusement, il a été reporté deux fois à cause de la crise sanitaire. Nous aurons des auteurs en présentiel, des auteurs qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont dans des pays qui ne leur permettent pas. Mais on a quand même réussi à réunir des auteurs passionnants et venant surtout des cinq continents, ayant des rapports à la langue française donc très différents, parce que pour certains, c'est une langue qui est même très rare dans leur pays et qu'ils ont vraiment choisi par amour de cette langue.
Alors, que raconte un écrivain en langue française quand il rencontre un autre écrivain en langue française?
Ça dépend. Parfois, ils se mettent à débattre. Ils peuvent même se disputer parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision de pourquoi ils parlent en français. Mais en général, ils parlent d'amour de la langue, ils parlent de littérature, ils parlent du monde, ils parlent de la beauté de cette langue française qui peut aussi bien raconter les paysages d'Haïti que les rues de Lille ou d'Amiens. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui nous unit finalement. On peut ne pas avoir du tout la même nationalité, la même culture, la même religion, mais le fait d'être écrivain et le fait de partager l'amour de cette langue fait qu'il n'y a aucune difficulté pour nouer une conversation qui va durer jusqu'au bout de la nuit.
Et si vous deviez faire une déclaration d'amour à la langue française, la Slimani, que diriez-vous? Quels seraient les mots que vous utiliseriez?
Écoutez, je la fais tous les jours. Tous les jours, je me réveille à 8h du matin pour me mettre devant mon bureau et écrire des livres. Donc je pense que voilà, la langue française, elle est au courant que je l'aime beaucoup. Elle me donne du fil à retordre. Donc c'est un amour qui est douloureux, qui est passionnel, qui n'est pas toujours payé en retour. C'est un combat, mais je crois que l'amour, c'est d'abord des actes, c'est d'abord des preuves plutôt que des déclarations.
Mais c'est une langue qui dit quoi pour vous? La liberté, l'invention, la complexité? Un des thèmes de ce congrès, c'est de savoir si c'est une langue d'émancipation.
Alors oui, je pense que ça peut être une langue d'émancipation. J'en ai parlé très très longuement avec Fawzia Zouhari, qui est une écrivaine tunisienne brillante et qui dirige le Parlement des écrivaines francophones. Et il y a une réflexion aujourd'hui vraiment très très intéressante de ces femmes écrivaines francophones pour qui le français est aussi une langue qui leur permet de dire des choses qui dans leur langue maternelle ne sont pas discibles ou sont difficiles à entendre. Donc le français devient une espèce de territoire comme ça de liberté dans lequel on peut s'exprimer, en particulier dans des pays avec des pouvoirs très conservateurs ou avec des religions qui peuvent être difficiles, avec des structures patriarcales qui sont très imposantes. Effectivement, cette langue, elle vous émancipe. Ensuite, et c'est un sujet dont on débattra pendant le congrès, une des grandes questions, c'est est-ce qu'une langue est plus porteuse de liberté, d'égalité, d'émancipation qu'une autre? Ça, c'est une question de point de vue. De mon point de vue, on ne peut pas hiérarchiser les langues. On a assassiné en français, on a torturé en français, comme on a fait la Révolution française en français. Donc la langue, finalement, est indépendante de ceux qui la parlent et de ceux qui peuvent la manipuler et en faire le pire comme le meilleur.
Sylvie Marsay, est-ce que les éditeurs, les professionnels du livre, les libraires que vous avez interpellés pendant ces 2-3 années de préparation des états généraux disent cette chose-là aussi sur la langue d'émancipation, sur une langue indépendante de valeurs ou d'un régime politique?
Alors tous ces professionnels, ils parlent des livres qui sont écrits par les écrivains. Donc ce que dit Leïla Slimani, finalement, c'est ce qui est porté par les livres. Et donc je pense que tous les éditeurs qui travaillent en grande proximité avec ces écrivains sont imprégnés de ce rapport à la langue française. Et quand on est éditeur et qu'on décide de publier, forcément on prend un risque par rapport à la langue qu'on publie et par rapport aux idées qui sont véhiculées.
Avec l'idée d'être un peu militant pour une langue ?
Pas forcément, puisque beaucoup de livres sont écrits sur d'autres sujets que la langue elle-même. Simplement, cette langue, elle va véhiculer un certain nombre d'idées. Et je pense que la somme de tous ces livres qui est publiée va véhiculer une liberté de pensée qui peut s'exprimer. Et donc ça, je pense que c'est une grande chance qu'on a. C'est que la diversité des livres qui sont publiés, et notamment, c'est l'enjeu que cette diversité soit pleine des différences culturelles des endroits où sont écrits ces livres. Et cette circulation des livres en langue française dans le monde, qui est au cœur des États généraux, c'est bien comment on fait pour s'enrichir de ce que chacun a à dire dans cette langue, dans ces langues françaises, puisqu'on sait que aussi la langue française, elle est pétrie de l'environnement culturel, social, qui est très différent d'un pays à l'autre, et c'est ce qui en fait toute sa richesse.
Être écrivain en français, né dans une autre langue, c'est votre cas, Leïla Slimani. C'est aussi le cas de Yamen Manaï, auteur tunisien, qui sera à ce congrès et qui était il y a quelques jours à ce micro.
Comme le français n'est pas ma langue maternelle, j'ai beaucoup d'humilité quand j'écris en français. Pas dans le sens de la narration, mais plutôt sur le choix spécifique de certains mots. Je cherche parfois à être plus précis que ce que je ne le suis de prime abord. Donc je cherche des synonymes, je cherche des mots. Et des fois, je tombe sur des mots du vieux français que j'ai du plaisir aussi à ressortir. Et je me dis, bah tiens, ce mot-là, il sonne bien, il est bien dans le rythme, il n'est plus beaucoup utilisé, il est peut-être un peu méconnu, mais il va bien servir la phrase d'un point de vue rythmique, d'un point de vue sonorité. Et du coup, c'est plutôt ce travail-là que je fais sur la langue plutôt que sur la narration.
Leïla Slimani, vous avez aussi ce sentiment de découverte et d'émerveillement face à certains mots que vous pouvez découvrir ?
Oui, absolument, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que Yamen, parce que moi, le français est ma langue maternelle, donc c'est la langue dans laquelle j'ai toujours pensé, rêvé, imaginé. Donc je n'ai pas de sentiment d'étrangeté réel vis-à-vis de cette langue, si ce n'est intellectuellement, puisque je me pose la question parfois de pourquoi est-ce que je la parle. Mais c'est une langue qui m'est extrêmement familière. En revanche, je pense que pour tous les écrivains, à un moment où on se met à écrire, d'un coup, les mots n'ont plus du tout le même poids, le même sens, et on n'a plus du tout la même aisance avec la langue que dans la vie courante, où voilà, on utilise un vocabulaire qui est d'abord plus limité et puis plus galvaudé. D'un coup, la langue apparaît extraordinaire, comme un espace immense, infini, dont on pourra jamais parcourir en entier, et qu'on essaye, voilà, avec beaucoup d'humilité, comme il le dit, de traverser le mieux possible. Mais effectivement, on est toujours subjugué par la richesse et la profondeur de la langue qu'on pratique.
Leïla Slimani organisait un congrès d'écrivains en langue française, s'est invité beaucoup d'écrivains non français, on l'a évoqué, Yamen Manaï, Djali Amadou Amal, Rodney Saint-Éloi. Est-ce qu'ils sont tous sensibilisés à la question de la diffusion de leurs livres, de leurs œuvres dans l'espace francophone ? Parce que, par exemple, vous écrivez en français, vous êtes publié en français, mais trouver votre livre au Maroc, c'est peut-être pas très compliqué, mais c'est forcément très cher pour un Marocain moyen.
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, en tout cas, nous, entre auteurs maghrébins, ça fait déjà plusieurs années qu'on s'est mobilisés pour faire des sortes de cessions de droits avec des maisons d'édition de nos pays qui permettent de vendre nos livres à des prix moins élevés et qui permettent aussi de faire vivre ces éditeurs. Alors moi, par exemple, ça a été le cas pour Sexe et Mensonges, qui est vendu au Maroc pour, je crois, 20 dirhams ou 25 dirhams dans un format de poche. Et c'est vrai aussi que, par exemple, pour tous mes livres, j'ai demandé contractuellement à ce qu'on mette en place un prix spécial pour les pays du Maghreb et pour l'espace francophone. Donc c'est aussi, bien sûr, à nous, écrivains, de nous engager, de prendre conscience de cette réalité pour ensuite peser sur nos éditeurs et leur expliquer ça. Je crois que beaucoup d'auteurs des pays francophones sont tout à fait conscients de cette question et sont très engagés, qui viennent du Cameroun, qui viennent du Congo, qui viennent d'Algérie. Ils poussent vraiment leurs éditeurs à prendre conscience que leurs lecteurs ne se situent pas simplement à Paris, à Lyon ou à Marseille, mais qu'ils ont des lecteurs dans le monde entier, puisqu'on parle le français dans le monde entier, et que donc il faut faire en sorte que les gens puissent accéder à ces livres-là à des prix qui sont des prix en rapport avec leur pouvoir d'achat.
Alors il y a ce problème-là, il y a l'autre problème aussi qui est un auteur marocain ou béninois ou haïtien, que sais-je, qui n'est pas repéré par un éditeur français a beaucoup de mal à pénétrer le marché. Donc ça, c'est l'autre versant de la problématique.
Absolument, c'est très difficile, même si bon, il y a des contre-exemples. Le contre-exemple étant par exemple quelqu'un comme Kamel Daoud, qui est quelqu'un qui a d'abord été publié en Algérie, qui a été repéré par Actes Sud, par une maison d'édition française, et pour notre bien à tous. Et je pense que ça aussi, il faut pousser les éditeurs à avoir une sorte de travail de veille, à regarder aussi ce qui se fait ailleurs, et à aider d'autres éditeurs à pousser des auteurs qui ont du talent, qui ont envie de se faire connaître. La difficulté, c'est qu'on vient, enfin moi par exemple, le Maroc, c'est un pays où le marché du livre francophone est très faible. D'abord, le marché du livre est faible, mais dans ce marché du livre, l'arabophone est bien supérieur au francophone. Donc, il est très difficile de vendre beaucoup de livres, de se faire connaître, et surtout de se faire connaître à l'extérieur du pays. Donc, c'est même le rapport au livre qui doit être complètement changé dans des pays où les gens n'ont pas l'habitude de lire et d'acheter des livres.
Sylvie Marcet, ce qu'évoque Leïla Slimani, est-ce que c'est le boulot des États généraux que de se coltiner à ces problèmes-là, d'y réfléchir et peut-être de trouver la formule magique?
Alors oui, c'est au cœur effectivement de la réflexion proposée dans le cadre des États généraux. Moi, je voudrais rebondir sur ce que dit Leïla Slimani. Créer des habitudes de lecteur, comment faire en sorte que les jeunes côtoient le livre depuis leur plus jeune âge. C'est vraiment un enjeu extrêmement fort des États généraux. Et ça me fait rebondir sur l'importance aussi que dans tous les États de la francophonie, il y ait des véritables politiques publiques du livre et de la lecture qui soient ambitieuses, parce que on peut avoir la chance de devenir lecteur tardivement, mais plus on est confronté au livre dans ses tendres années, plus ce lien d'émotion, de sensibilité avec les livres se développe jeunes, aussi dans des relations justement de lecture par des adultes à des enfants, eh bien plus on a de chances que cette envie de lire, ce besoin de lire, cette envie d'aller rencontrer d'autres mondes que les siens au travers de livres ou simplement d'aller apprendre des choses aussi, elle va pouvoir se développer.
Mais sans avoir la formule magique, on peut dire qu'il y a une prise de conscience. Est-ce que vous validez ce que disait Leïla Slimani sur les éditeurs qui acceptent finalement des cessions de droits maintenant pour que par exemple les prix soient moindres dans les pays d'origine des auteurs?
Alors, il y a des éditeurs qui le font et qui le font déjà depuis plusieurs années. Un des gros sujets, ça va être effectivement comment peut-on motiver des éditeurs à s'interroger sur ces questions. Et ça va être au cœur des États généraux. Il y a plusieurs formes. Leïla Slimani parlait de la cession de droit ou de la réservation de droit par l'auteur lui-même dans certaines régions. Il peut y avoir des éditeurs qui ont tous les droits en langue française dans le monde, mais justement la question va être est-ce que réellement le livre est diffusé partout? Et s'il ne l'est pas, comment on peut faire pour faire en sorte qu'il le soit. Il peut y avoir des systèmes de partenariats éditoriaux, il peut y avoir des partenariats aussi de production pour que le livre soit produit localement. Donc tous ces sujets qui finalement vont toucher toutes les strates, les métiers de cette chaîne du livre vont être débattus au cœur des États généraux pour inviter tout le monde à repenser la circulation du livre, de chaque livre, dans l'espace francophone.
Il semble en tout cas que la perception de la francophonie, de la littérature, de la francophonie, du livre, ait fait un peu sa révolution copernicienne ces dernières années. Elle inclut la diversité et certainement le multilinguisme aussi. Peut-être faut-il dater cette révolution du discours d'Emmanuel Macron sous la coupole de l'Académie française. C'était le 20 mars 2018.
Toutes celles et ceux qui parlent en langue française ont une richesse, ils ont plusieurs langues. Il n'y a que les Français qui n'ont que le français. Et la francophonie nous enseigne une chose, c'est que nous n'existons que dans ce plurilinguisme. Notre force, c'est de penser ces passages. Notre force, c'est que nous sommes toujours et avant tout une langue de traduction. Et notre mission est donc bien celle de continuer à traduire, d'accroître les traductions dans un sens et dans l'autre, mais aussi de défendre le Wolof, le Mandingue, le Bassa, le Lingala, le Kikongo, le Swahili, tous les créoles, mauriciens, guadeloupéens, haïtiens, martiniquais, réunionnais, des langues qui, comme le français, rassemblent des millions de locuteurs au-delà des frontières et contribuent à la circulation des savoirs et des cultures.
Leïla Slimani, l'éloge de la langue française passe par l'éloge du multilinguisme, comme l'a fait le président de la République?
Ah bah évidemment, parce que la langue française, sa force justement, surtout aujourd'hui, c'est d'être en contact constant, en frottement constant avec d'autres langues. Les langues qui ne sont pas au contact d'autres langues, qui vivent finalement de manière très très isolée, sont souvent des langues qui sont moins riches. Elles s'enrichissent moins d'apports étrangers. La langue française, elle est pleine d'apports de l'arabe, de l'anglais, du créole, de l'espagnol, de l'italien, du russe même. C'est ce qui fait la merveille de cette langue. C'est pour ça que c'est une langue qui attire tellement d'écrivains, parce que quand vous écrivez le français, vous entendez le monde entier résonner dans vos mots.
Donc le français a soldé son héritage colonial, selon vous ?
Non, je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça, parce que nous, nous sommes quand même des êtres de chair, et le fait que nous parlions français, quand je dis nous, c'est moi, des auteurs voilà, venant d'Algérie, du Congo d'ailleurs, nous parlons cette langue parce que nous avons une histoire, et cette histoire-là, on a aussi envie de la raconter, on a aussi envie qu'il y ait une prise de conscience que cette langue-là, elle est venue d'ailleurs, on doit savoir pourquoi elle est venue de là, mais je pense que si on ne pourra justement solder tout ça, on ne pourra résoudre ça, qu'en ayant un discours très franc, très sincère et très apaisé. Il ne s'agit pas du tout d'être dans le règlement de compte ou dans l'amertume, mais simplement voilà, de nouer un lien avec notre passé. Et pour que cette langue nous appartienne vraiment, il faut qu'on comprenne aussi d'où elle est venue et comment maintenant on va pouvoir la faire revivre et lui offrir l'avenir qu'on a envie de lui offrir.
Sylvie Marsay, qu'attendez-vous de ces états généraux, événement pour lequel vous avez travaillé pendant 3 ans. Vous faites 50 propositions pour dynamiser le secteur éditorial, dites-vous, mais il y a, me semble-t-il, quand même de nombreuses barrières à dynamiter avant.
Oui, effectivement, une des premières choses qu'on va faire pendant ces états généraux, c'est de partager les constats. C'est-à-dire qu'il faut que chacun ait en face de lui la réalité de ce qu'est aujourd'hui cet espace éditorial de langue française. Donc, bon, partageons les constats. Le livre est trop cher, on en a parlé tout à l'heure. Juste pour donner quelques chiffres, en France, un livre, c'est à peu près 13 euros en moyenne. Bon, pour un pouvoir d'achat, le livre représente moins de 0,30%, vous voyez, du pouvoir d'achat mensuel en France. Et on a pu regarder dans le cadre de la préparation de ces états généraux ce qu'il en était, notamment en Afrique subsaharienne. Et là, on se rend compte que le livre est entre 12 fois et 27 fois plus cher, proportionnellement, en Afrique subsaharienne. 12 fois quand c'est un livre produit localement et 27 fois quand c'est un livre importé. Donc même si le prix du livre est baissé par rapport au prix français, il n'en reste pas moins qu'il est beaucoup, beaucoup trop cher. Et pour frapper les esprits, on s'est dit, mais au fond, si en France ou en Europe, hein, parce que les prix sont à peu près les mêmes, si on avait ce même ratio par rapport à notre pouvoir d'achat, à combien serait le livre ? Et on arrive à des chiffres sidérants. Le livre en France vaudrait 150 euros pour un livre fabriqué en France par rapport à notre pouvoir d'achat mensuel, et pour un livre importé, 325 euros. Vous imaginez bien que si le livre valait entre 150 et 325 euros, très peu de gens liraient. Donc, prendre conscience de ça, faire réfléchir les acteurs, fédérer les acteurs autour de propositions qu'ils ont travaillé eux-mêmes. Les propositions ne sont pas venues de l'extérieur, elles sont venues des acteurs eux-mêmes. Au total, c'est à peu près 600 acteurs du monde entier qui ont travaillé à la rédaction de ces propositions. Donc, elles sont vraiment étayées sur des pratiques, sur une réalité. Voilà, donc c'est de faire bouger les lignes.
Et essayer de mobiliser les politiques, parce que sans volonté politique, nada.
Absolument, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que l'enjeu de ces états généraux, c'est de mettre dans une même pièce, au même moment, des acteurs politiques avec des vraies responsabilités politiques. Et on va réussir à réunir au minimum 6 ministres de la culture de différents États ou gouvernements de la francophonie, de mettre les institutions qui soutiennent le livre, les acteurs de la chaîne du livre.
Et tout, de faire des préconisations pour le sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre, toujours en Tunisie. Leïla Slimani, vous qui avez l'oreille du président de la République, si j'ose dire, s'il fallait adopter une mesure en priorité, vous lui diriez quoi ?
Je lui dirais d'écouter. J'ai pas une proposition, une formule magique, c'est l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. Je crois qu'on est face à une situation d'une très grande complexité et c'est pour ça que c'était important d'organiser un congrès ou des états généraux. C'est-à-dire de faire parler les gens qui sont les premiers concernés. De ne pas être dans quelque chose d'en haut, où on prend une décision d'en haut parce qu'on pense qu'elle est bien, mais au contraire de faire remonter les informations et d'être à l'écoute de ceux qui voient les problèmes, qui les vivent tous les jours dans leur quotidien. Donc voilà, je crois que là, la seule chose que nous avons à faire, c'est surtout d'ouvrir grand nos oreilles.
Merci beaucoup Leïla Slimani, merci Sylvie Marsay. Rendez-vous donc à Tunis avec les états généraux jeudi et vendredi et sur le site de l'Institut français et le Congrès mondial, donc samedi et dimanche à Tunis toujours. Et tous les échanges seront retransmis sur le site des étonnants voyageurs. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin. Et nous nous retrouvons donc demain à Tunis au cœur de ces états généraux du livre en français dans le monde.